Bonjour, donc je suis Françoise Leroc, je suis responsable de l'habitat inclusif au sein de l'association AGV. AGV en un seul mot, Association Loi 1901.
Et donc là, on est au 41 rue Courteline.
Oui.
Donc quel bon vent nous amène ici ?
Alors, cette année, il y a eu des gros chamboulements, enfin, AGV en train de doubler hein, en termes d'accueil parce qu'on a ouvert là deux structures. Alors, juste un petit aparté sur Fondette, parce que sur Fondette, il y a eu une ouverture d'une grosse maison qui a été travaillée avec l'ARS, avec les départements, avec la région. Enfin, vraiment, c'est une expérimentation, encore une fois, enfin, ou un projet innovant. On parle de projet innovant, c'est-à-dire que sur le même lieu, il va y avoir de l'hébergement permanent. Enfin, il y a de l'hébergement permanent, 65 places en hébergement permanent, 5 places en hébergement temporaire. 10 places d'accueil de jour sur 5 journées, 15 appartements en habitat inclusif. Donc là, on n'est pas sur le médico-social, mais sur le même site, en tout cas, on trouve l'ensemble de ces services. Et on a créé un service qui s'appelle Le Fil et qui, en tout cas, accompagne les gens dès le domicile pour leur permettre d'accompagner le parcours et éviter les ruptures de parcours. Voilà. Et puis s'adapter au rythme de chacun, aux besoins de chacun, avec également la plateforme de répit qui est aussi dans l'accompagnement des aidants qui propose du répit, qui propose du ressourcement, qui propose des possibilités aux aidants de prendre du répit. Et donc Courteline qui ouvre là également. Alors c'est le service d'accueil de jour qui devait déménager parce qu'on était auparavant rue Giraudot. Donc dans un appartement qui existe toujours, mais qui devenait un petit peu trop étriqué pour à la fois accueillir des personnes âgées tous les jours, plus des bureaux. Ah, on va peut-être devoir s'interrompre.
Voilà, allons écouter les discours.
Je suis conseiller en architecture du patrimoine au sein de l'association Solia Centre-Val de Loire. J'accompagne des collectivités et des propriétaires privés qui souhaitent entreprendre des travaux de restauration de bâtiments anciens, en leur apportant une assistance technique, architecturale, administrative et puis parfois financière, puisque certaines collectivités subventionnent les travaux de restauration de façade. Lorsque Solia s'est porté acquéreur par le biais d'un bail emphytéotique de ce bien, il était vacant depuis de nombreuses années. C'est un bâtiment qui était rattaché à l'EHPAD, à la maison de retraite juste à côté. Et qui servait. Alors, vous allez pouvoir.
Alors, ce bâtiment servait dans les premiers temps à un atelier pour les personnes âgées valides, puisque en 1975, quand la maison a été inaugurée, il y avait les résidents qui venaient faire des travaux manuels. C'était le bureau aussi des sœurs quêteuses. Et en plus, à l'étage, on avait à l'époque, puisqu'il y a l'école française à Tours pour les sœurs étrangères, c'était leur. Elles vivaient tout en haut, sous les combles. Donc l'été, c'était extrêmement chaud. Et après, les personnes âgées vieillissant, l'atelier ergothérapie s'est retourné là-bas. Donc là, après, on avait aménagé en chambre pour les familles qui venaient voir leurs résidents.
C'est quoi une personne âgée ?
C'est quoi une personne âgée ?
C'est à partir de quel âge ?
Alors, on va dire de manière un peu schématique, c'est retraité à partir de 60 ans, pour nous. Après, il y a toujours à la marge des situations de personnes plus jeunes qui malheureusement doivent être accompagnées pour des raisons de santé, souvent, voilà, qui vont avoir pathologies, troubles cognitifs. Voilà. Ça peut arriver aussi de manière assez précoce.
Voilà, ça servait à accueillir pour quelques nuits des enfants venant visiter leurs parents accueillis.
On a même eu un couple qui était venu quelque temps pour voir s'ils allaient s'adapter à la vie de la maison de retraite, qui avait vécu quelque temps ici. On a aussi Madame Pascali qui est à la maison de retraite maintenant, qui a vécu aussi quelque temps ici.
D'accord, merci pour ces informations. Alors, aujourd'hui, ce bâtiment est situé en site patrimonial remarquable, les SPR, qui remplacent en partie les anciens secteurs sauvegardés, ça peut peut-être plus vous parler. Et ce bâtiment, en plus, est protégé dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours. Sa situation SPR, doublée de cette protection, alourdissent énormément les contraintes architecturales imposées par l'architecte des bâtiments de France et l'analyse architecturale devant y répondre. d'où mon intervention.
Bonjour madame.
Bonjour, je m'appelle Pascaline. Je vous fais visiter mon appartement qui fait 34 mètres carrés.
Avec plaisir, on vous suit.
Donc là, c'est la salle d'eau avec la douche, les toilettes, un petit lavabo avec la glace. Voilà, ici c'est la salle de vie que j'ai dû partager entre la cuisine et tout. J'ai un frigo, une machine à laver que j'ai emmenée. Le frigo, c'était déjà là. De l'autre côté, ben, j'ai une plaque. Voilà. Et puis là, ben, c'est ma petite cuisine. Une table et puis mon meuble de cuisine. Voilà. Et puis là, ben, j'ai fait mon petit coin bureau. Pour qu'il reste encore plein de cardons parce que je viens d'emménager. Hein. C'est pas encore...
Il faut prendre le temps.
L'arbre à chat pour ma petite minette. Voilà.
Donc, ça veut dire que vous avez pu emmener votre chat ici?
Oui, oui, oui. Elle est là depuis 3 jours, alors elle n'est pas très rassurée.
D'accord.
Elle est cachée sous...
Elle est cachée sous votre lit.
Ah.
D'accord.
On ne la voit pas, elle est toute cachée.
Ah, ben oui, souvent.
Et puis là, ce qui est bien, c'est que j'ai amené mon canapé pour que ça fasse moins de place. Et puis, j'ai quand même un placard. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, une penderie de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, c'est un 34 mètres carrés. Avant, j'avais un 52 mètres carrés. Et je retombe dans un 34 mètres carrés. Donc, il faut trouver sa place maintenant.
Bien sûr.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on voit par vos fenêtres?
Oh, on voit le jardin. C'est ce que j'avais demandé. Quand je me suis inscrite, j'ai dit, j'aimerais bien avoir la vue sur le jardin. Parce que c'est agréable le matin quand j'ouvre les rideaux. Parce qu'on n'a pas de fenêtre, on a des rideaux. La vue sur le jardin, c'est incroyable, quoi. C'est très bien.
Merci. Est-ce que vous voulez me lire ce qui est écrit sur votre dessous de plat?
Seul le bon crée du bonheur.
C'est votre philosophie?
Oui. Ah, vous voyez, c'est 34 mètres carrés, mais
oui.
C'est grand, hein.
Pour ce projet précis, j'ai assuré une maîtrise d'œuvre partagée avec l'agence d'architecture Frédéric Tan. Cette agence d'architecture a assuré la maîtrise d'œuvre générale à l'exclusion, à l'exception des restaurations des façades dont j'avais la charge. Alors, concrètement, ma mission s'est divisée en 6 étapes. Je vais vous la présenter en 6 étapes. La première a consisté à établir un diagnostic technique et architectural du bâtiment, c'est-à-dire identifier les désordres techniques et en même temps identifier les éléments architecturaux datant de l'origine de la construction, ces éléments qui devaient être préservés et restaurés dans le cadre de ce projet, puisque je vous le rappelle l'objectif d'une restauration de façade est de restituer l'immeuble dans ses dispositions architecturales d'origine. Enfin, c'est l'attente des architectes des bâtiments de France, c'est ce qui est écrit dans le règlement du plan de sauvegarde et mise en valeur. Alors, il ne s'agit pas de rénover, c'est-à-dire faire du neuf, hein. Il s'agit bien de préserver, restaurer, pérenniser une architecture tout en tolérant des altérations de la pierre, des altérations de certains éléments, pour peu qu'ils ne soient pas à l'origine de problèmes techniques, infiltration d'eau, rétention d'eau, et pour peu que ces altérations tolérées ne génèrent pas un problème de lecture architecturale du bâtiment.
Là, sous le nez, j'ai une carte, on voit une carte
du 37.
Du 37. Disons-le à nos auditeurs, parce qu'à la radio, on ne voit pas forcément.
Qui présente en fait l'ensemble des services d'AGVI. AGVI qui fête cette année ses 30 ans et qui propose des services d'accompagnement de nos aînés, on va dire, personnes âgées du territoire. Les accompagner à leur projet du maintien à domicile, tant que c'est possible et tant que c'est leur projet. En diversifiant en fait les offres d'accompagnement et d'hébergement ou d'habitat, puisque désormais on est aussi sur de l'habitat inclusif. Donc on a 3 petites maisons. Alors on est aussi sur ce principe du
comme le plus proche du comme à la maison, avec la philosophie Carpe Diem, avec des équipes qui sont formées à la philosophie Carpe Diem qui nous vient du Québec.
Et c'est quoi ?
Alors, le Carpe Diem, c'est on accompagne des gens, on n'accompagne pas des malades, on a des personnes qui ont. Et on s'appuie sur le potentiel des gens. Voilà, et c'est comment on fait en sorte qu'ils maintiennent une vie sociale, qu'ils continuent à sortir de chez eux, à avoir un rôle. Donc dans les maisons, par exemple, ça se traduit par participer à la vie de la maison, préparer les repas ensemble. Et comme on est sur des petites maisons d'une vingtaine de chambres, voilà, la proximité, la convivialité, le côté familial en fait, est facilité par la taille la taille humaine en fait de nos maisons. Donc on a deux relais sépia. Donc les relais sépia, ce sont 20 chambres dédiées exclusivement à de l'hébergement temporaire, c'est-à-dire que les gens ne sont que de passage. Ils viennent soit du domicile, alors notamment dans le cadre du relais des aidants. Également, ça peut être en sortie d'hospitalisation, le temps de reprendre de l'assurance, de retrouver un rythme de vie et de préparer le retour à la maison dans de bonnes conditions pour éviter les allers-retours à l'hôpital. On peut être aussi des situations d'isolement, des gens qui ont besoin de retisser du lien, de sortir de chez eux. Voilà. Et puis il y a plein de raisons, hein. Ça peut être simplement des travaux dans la maison, on n'a pas envie de rester chez soi, donc on peut venir juste pour un week-end, une semaine, 10 jours, 15 jours, voilà. Il y a un maximum qui est de 90 jours dans l'année, mais l'hébergement temporaire, on vient juste piocher ce dont on a besoin.
Et alors une question peut-être très terre-à-terre, comment c'est financé un séjour dans ces structures ?
Alors il y a une partie, il y a un reste à charge hein, pour la personne accompagnée, par contre pour des personnes qui bénéficient de l'APA, le département prévoit systématiquement... une prise en charge via l'APA. Donc, et nous, on applique un système de tiers payant, c'est-à-dire qu'on est en lien direct, c'est une part que les gens n'ont pas avancée, qui peut aller jusqu'à 50 euros par jour pour les gens qui ont un plan d'aide maximum. Et donc, en plus des deux relais sépia, on a un petit EHPAD à Chemillé-sur-Dême, là aussi 24 appartements. Donc là, c'est aussi comme à la maison. Donc chacun a un rôle dans la maison. L'idée, c'est d'être l'équipe et avec les gens. Fait avec les gens, les fait participer au maximum à la vie de la maison. On est ensemble, ils mangent ensemble, il n'y a pas de blues, il y a pas. Voilà. Carpe Diem, c'est ça aussi.
Donc ça veut dire que les gens, s'ils le souhaitent et le peuvent, participent à la confection des repas. Est-ce qu'ils choisissent les menus? Est-ce qu'ils proposent des animations, des choses comme ça?
Ah, s'ils sont force de proposition, bien évidemment, l'idée c'est vraiment d'être au maximum dans une démarche participative et en s'appuyant encore une fois sur les capacités de chacun. Voilà. On a également donc un gros service d'accueil du jour. Qui est sur l'ensemble du département. Alors, des services d'accueil de jour qui sont rattachés à nos structures, à Neuville-le-Roi qui est rattaché à Chemillé, à Savigny, à Descartes, et sinon ce qu'on appelle l'accueil de jour itinérant, qui est en fait en lien avec les communes, qui mettent à disposition une salle où on peut se retrouver. AGV organise le transport, va chercher les gens à domicile. Mais là encore, ce qui est important pour nous, c'est d'aller au plus près des gens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les déplacer ou de leur faire des circuits. On est dans un rayon, sur chaque site, un rayon d'une vingtaine de kilomètres où on va chercher les gens chez eux. On peut organiser le transport, on peut... Voilà. Mais l'intérêt, c'est de leur permettre de continuer à sortir chez eux, d'être motivés, de se dire, ce jour-là, moi, je sors, je vais retrouver... C'est le même groupe, en fait, d'une semaine sur l'autre. Donc, ils retrouvent des gens qu'ils connaissent. C'est vraiment l'idée de sortir de chez soi, de continuer à rencontrer des gens, de passer un bon moment. Voilà, justement, de confectionner le repas. Parce que là aussi, sur toutes les journées d'accueil de jour... À aucun moment on fait de la livraison de repas. C'est vraiment, on prépare le repas ensemble, on mange ensemble. Et donc, il y a une douzaine de personnes sur chaque site.
Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour les personnes qui auraient Alzheimer ou une maladie comme ça ?
Alors, on accueille des personnes qui ont... Mais encore une fois, ce n'est pas la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas accueil de jour spécialisé, mais on est dans une mixité en fait, d'accueil. Voilà. La porte d'entrée, encore une fois, c'est pas, on n'accueille pas des malades, on accueille des gens qui ont besoin à un moment et on va adapter l'accompagnement en conséquence.
Une fois cette phase de diagnostic réalisée, on arrive à la phase de prescription de travaux, programmation des travaux. Alors définir un programme de travaux qui va répondre à l'attente du propriétaire maître d'ouvrage, qui va répondre aux désordres techniques identifiés, qui va répondre à l'époque de construction, au style architectural, aux matériaux constitutifs. Ce programme de travaux doit répondre également au règlement d'urbanisme, le plan de sauvegarde et mise en valeur, on en revient toujours, et puis bien sûr aux recommandations, aux contraintes imposées par les architectes des bâtiments de France. Une fois que ce programme de travaux est défini, il faut le faire valider par l'architecte des bâtiments de France. Donc ça a été des échanges, des visites sur place, des négociations, des dérogations à obtenir, puisqu'il y a certains éléments qui ont été réalisés et qui ne répondent pas scrupuleusement au règlement d'urbanisme, mais on a pu obtenir des dérogations auprès de l'architecte bâtiment de France. Un exemple, on est sur un bâtiment qui est entièrement en pierre de taille, sur ces trois façades visibles. D'après le PSMV, d'après le plan de sauvegarde et la mise en valeur, un bâtiment en pierre de taille doit être restitué en pierre de taille. Et là, on a eu dérogation pour quand même réaliser des zones enduites, ce qui financièrement a rendu le projet possible. Le rôle, mon rôle, est un peu un rôle de médiation où j'ai dû définir un projet qui était techniquement, architecturalement réalisable et financièrement supportable par le maître d'ouvrage.
Quel métier on trouve dans les structures ?
Alors dans les structures, alors essentiellement des équipes, alors du coup on parle d'équipes polyvalentes, parce que quand on dit être avec les gens, faire avec les gens, eh bien ça veut dire que c'est du 24-24, hein, bien sûr, du non-stop. Et donc les équipes polyvalentes qui sont essentiellement AES, enfin anciennement AMP, ça peut être des aides-soignantes, auxiliaires de vie, mais toujours dans la polyvalence, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui vont comme à la maison, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en cuisine, d'autres moments où on est en lingerie, d'autres moments où on est dans l'accompagnement avec les gens, d'autres moments plus dans l'aspect ludique. Voilà, on est avec les gens tout au long de la journée. Et ce sont les mêmes qui assurent le jour et la nuit, donc avec des roulements qui ont été organisés avec elles.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de soignants rattachés à la structure. Les personnes qui ont besoin, peut-être elles reçoivent des soignants de l'extérieur, mais il n'y en a pas forcément dans les structures.
Alors si, sur chacune de nos structures, alors sur les hébergements, l'accueil de jour, non, on n'a pas de personnel soignant. Sur l'accueil de jour, il y a des animatrices, ça peut être monitrice éducatrice, AES également, ASG, voilà, mais sur l'hébergement, on est là aussi comme au domicile, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personnel soignant dans la maison, enfin à demeure. Sur les hébergements temporaires, en tout cas, on fonctionne avec les libéraux, infirmières libérales, intervenants libéraux, comme on peut le faire chez soi, en fait.
Et alors, pour nos auditeurs qui se demanderaient, c'est quoi la différence avec un EHPAD ?
Les relais Sépia, la différence, c'est qu'on accompagne des gens qui vivent chez eux, en fait, et qui viennent nous juste pour un temps donné. Certains le vivent comme des vacances. Ils disent, moi je viens parce que j'ai juste envie de me mettre les pieds sous la table, j'ai pas envie d'avoir à gérer le quotidien, je suis fatiguée, j'ai une petite phase de déprime parce qu'il fait pas beau, parce que, enfin, pour plein de raisons, ou j'en ai marre d'être toute seule chez moi ou de manger toute seule devant la télé. Et ben, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de faire partager des activités, des bons moments, voilà.
Une fois les travaux, alors une fois cet avant-projet validé par l'architecte bâtiment de France, on a pu déposer le permis de construire. Un permis de construire en secteur sauvegardé, c'est 6 mois. Donc on voulait s'assurer de l'obtention de ce permis de construire avant sa dépôt. En même temps, on a pu lancer la phase de consultation des entreprises, rédaction d'un appel d'offres, analyse des offres, sélection des entreprises. Et puis arrive la phase de travaux, donc suivi de travaux, avec d'emblée une modification, une adaptation du programme de travaux, puisque quand le programme de travaux était défini, je vous ai amené quelques photos, tout était couvert par un enduit et on avait fait des sondages, on savait quelle était la nature du support, par contre on ne pouvait pas savoir dans quel état. Donc un programme de travaux qui doit toujours être modifié, adapté ou confirmé une fois les enduits piochés. On a découvert des éléments, on a découvert des caractéristiques, on a découvert des états particuliers. Et là, mon rôle était d'en informer l'architecte des bâtiments de France, de proposer une modification du programme de travaux afin que ce soit validé et de poursuivre le chantier.
Après, on a aussi donc l'habitat inclusif qui est en plein développement avec un premier, c'était une expérimentation en 2016 à proximité du relais Sépia à Sévigné-sur-Latan. On a ouvert 5 petits pavillons d'une cinquantaine de mètres carrés, mais on a travaillé pendant plusieurs années avec des habitants et avec des élus pour savoir de quoi ils avaient besoin. C'est-à-dire que il y a des personnes, on pouvait entendre un certain nombre de personnes qui disaient moi je vais quitter ma maison. Et par défaut, je vais aller en structure collective, en foyer logement, en EHPAD, parce que j'ai pas d'autre choix. Et pourtant, je suis quand même en capacité de continuer à gérer mon domicile. Donc là, c'est de se dire il manque des choses. Et donc en 2016, on a ouvert ces 5 pavillons parce que les gens pouvaient dire « moi, je vais quitter ma maison parce qu'elle est trop grande, parce que je suis veuve et j'ai un terrain à entretenir que j'arrive plus à entretenir, ça me coûte trop cher. » Enfin, pour plein de raisons, je suis très isolée, j'ai plus de moyens de mobilité en fait. Donc la question a été de leur dire « mais vous quittez pour ces raisons-là, mais de quoi vous auriez besoin dans un nouveau logement ?» Donc c'était évidemment de se rapprocher d'un bourg, avec des commerces de préférence, se sentir plus en sécurité, ça s'est ressorti aussi. Donc avoir besoin de quelqu'un qui veille sur moi, qui s'assure que je vais bien à peu près tous les jours, quoi. Mais tout en gardant mon indépendance et en disant que je suis chez moi, si j'ai envie de manger à 14h, je mange à 14h, si j'ai envie de recevoir des gens jusqu'à 22h, ça pose pas de problème. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc on a travaillé à l'échelle de la communauté de communes, Touraine-Ouest-Val-de-Loire. Et donc il y a 21 logements à venir là dans les 2 années sur 6 autres communes en plus de Savigny-sur-Latan. Voilà, donc ça on est plutôt sur milieu rural, sur du diffus, là encore une fois, pour permettre aux gens de rester sur leur territoire, voire leur commune dans l'idéal, hein, parce que c'est vraiment. On sait qu'un déménagement, ça peut être éprouvant, surtout à un certain âge, hein, quand on a vécu toujours au même endroit toute sa vie et qu'il faut changer. Si en plus il faut recréer le réseau social, changer de médecin, changer d'aide à domicile, c'est quand même extrêmement compliqué de pouvoir s'adapter dans ce nouveau logement. Donc dans l'idéal, si la personne reste dans sa commune, alors certes elle change de logement, mais c'est ce qu'on appelle nous un nouveau chez soi. C'est comment on les accompagne et faire en sorte qu'il y ait le moins de chamboulement possible. Et puis, il y a aussi tout un dispositif d'accompagnement, de veille, ce qu'ils ont appelé veille bienveillante. Hein, ce sont les premiers habitants qui l'ont appelé comme ça. La veille bienveillante, comment on l'organise pour avoir un œil un peu tous les jours. Et puis, l'animation, comment on facilite le lien entre voisins, avec le quartier, avec la commune. Comment on reste citoyen dans sa commune, comment on est acteur. Voilà. Enfin, l'idée dans ces projets aussi, c'est de permettre aux gens, à nos aînés, voilà, on dit personnes âgées c'est quoi, nous on dit nos aînés de manière plus large, hein. En tout cas sur ces dispositifs-là, c'est comment on les remet en avant, comment on valorise leur mémoire, on mène aussi des projets d'animation sur ce territoire. Voilà.
C'est pas grave. Alors là j'ai marché dans la gamelle du chat.
Voilà. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais le mettre après.
Allez-y, continuez la visite.
Donc là c'est la petite plaque.
La cuisson, ouais.
Oh pardon.
Voilà.
Je vais passer
les bêtises,
désolé.
Julie.
Moi j'ai suivi. Décidément, excusez-moi.
Je travaillais pour Sonia et j'ai suivi toute la passion.
Une fois les travaux finis, on en arrive bien sûr à la phase de réception des travaux, conformité des travaux, réception des factures, vérification du bon établissement des factures et puis paiement des entreprises.